Bon, bah, écoutez, moi, je suis le président d'Angibert Bouteiller. Je suis donc le président du, ce qu'on appelle le centre Vélivol d'Auch.
Oui.
Alors, Vélivol, c'est un très mauvais mot, quoi, qui hérite sûrement du passé. Et il y a beaucoup de gens qui doivent se demander ce que c'est, s'il faut savoir nager ou si je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est un mauvais mot, mais qui, historiquement, se perpétue. Et je crois qu'il faudrait plutôt appeler ça l'activité le planeur, quoi. Et voilà, le planeur, ça, c'est beaucoup plus parlant, je crois, que toute autre chose, quoi. Voilà. Alors, donc, ce sont des objets volants sans moteur.
Oui.
Hein, et nous volons grâce à ce qui se passe dans l'atmosphère, soit le vent en montagne, soit par chez nous. Le soleil qui est de toute façon le maître de tout, hein, parce que le soleil chauffe la terre chauffe l'air, et ça fait des colonnes d'air chaud qui montent.
Mm-hmm. Voilà.
Et c'est dans ces colonnes d'air chaud qui montent que nous montons, jusqu'à des altitudes variables. À Auch, on monte entre 1000 et 2000 mètres, quoi, en gros, parfois un petit peu plus,
okay.
Parfois un petit peu moins. Et ça nous permet, une fois qu'on s'est... manier ces appareils, ça nous permet de nous promener de façon écologique, sans bruit, sans émanation nocive. Voilà. Donc nous, on se balade, notre terrain de balade, c'est entre Saint-Gaudens, Nogaro, Marmande, Cahors. Quoi, voilà.
D'accord.
Donc une balade standard que l'on fait... on aime bien faire quand c'est possible, c'est d'aller par exemple à Marmande, aller après à Cahors et revenir. Ça fait 300 km. Voilà.
C'est joli.
Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin si on est très doué, si on a des appareils aussi performants. Ça dépend. Parce que les planeurs, c'est comme les voitures. Il y en a qui ne vont pas vite, il y en a qui sont plus puissantes et qui vont plus vite. Et une des façons de définir la puissance, si je puis dire, d'un planeur, c'est ce qu'on appelle la finesse. C'est-à-dire que si vous lâchez un planeur à 1000 mètres, au bout de combien de kilomètres toucherait-il le sol ?
Mm-hmm.
Eh bien, les planeurs actuels, ils ont une finesse qu'on appelle 40. Quoi. C'est-à-dire que si on les lâche à 1000 mètres, ils toucheront le sol au bout de 40 kilomètres. Mais il y en a qui sont qui sont mieux que ça encore, hein, qui ont des finesses qui vont à 60. Le plus sophistiqué d'entre eux, le dernier plus sophistiqué, a, dit-on, une finesse de 70. Quoi. Voilà, hein. C'est-à-dire, mais déjà, quand vous avez un planeur qui est dit de finesse 40, ça veut dire que pour faire un kilomètre, vous perdez 25 mètres.
D'accord.
Voilà, et donc, ce qui fait un angle de planer de très très peu de choses, ça fait un à 2 degrés de planer. Quoi. Donc, c'est, quand on vole, finalement... on ne s'aperçoit pas qu'on descend. Quoi, hein. Quand vous descendez une côte à vélo, vous savez que vous descendez. Quand vous descendez à vitesse, je dirais, normale, entre 100 et 130 km/h, ben, vous vous apercevez vraiment pas que vous descendez, vraiment, même si on descend. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'activité. Alors nous, dans le club, on a des planeurs biplace,
oui.
Des planeurs monoplace. Alors les planeurs biplace servent à apprendre. Nous avons trois instructeurs qui instruisent de façon bénévole, et donc l'élève pilote se met à l'avant et le moniteur se met
à l'arrière.
Voilà. Donc il faut à côté de ça, nous avons on a fait un simulateur de vol planeur qui est exposé dans notre centre et qui sera exposé d'ailleurs aussi à la foire au sport comme on le fait chaque année. Et donc, on a approché... Alors, c'est un vrai planeur, je veux dire, c'est pas une imitation, c'est un vrai planeur qui est le frère d'un de nos planeurs, d'ailleurs. C'était une épave qu'on avait rachetée à un autre club, qui était un planeur qui était cassé. Quoi. Donc, on lui a coupé la queue, on a enlevé les ailes. Mais c'est exactement le même planeur, donc ça permet déjà aux gens de s'habituer, de voir comment c'est fait, etc. Et aussi d'avoir quelques sensations, voir comment ça décolle, comment ça tourne, etc. On a une image projetée, et puis on vole sur les sites que l'on choisit, ça peut être sur les Pyrénées, à Auch ou ailleurs, tout ça c'est dans le logiciel. Voilà. Donc, on apprend, et puis un grand jour arrive, le moniteur dit, ben voilà, c'est ton premier vol tout seul. Voilà, je descends et c'est à toi tout seul. Donc, en général, ça se fait, il y a une leçon, et puis le moniteur descend et dit, voilà, c'est à toi tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un grand moment dans la vie d'un pilote. Et puis, on fait un petit atterrissage, voilà, et puis après, ben, les vols se reproduisent. Ça ne veut pas dire pour autant que cet élève pilote a fini d'apprendre,
oui.
Parce que c'est même une activité dans laquelle on apprend un peu toute sa vie, mais il y aura d'autres vols avec le moniteur, etc. Et en général, ça se passe très bien, parce que les moniteurs ont, bon, une instruction particulière pour devenir moniteur, on ne devient pas moniteur comme ça, il y a un diplôme validé à l'échelon national, et donc, en général, les moniteurs savent quand, en gros...
Quand la personne est prête.
Quand la personne est prête, hein, comme disait un de mes amis, moi je lâche quelqu'un tout seul, si je sais que je peux aller prendre un café sans savoir ce qu'il fait, quoi.
Voilà. D'accord.
Donc, voilà. Donc ça se passe en général très très bien, et puis après on progresse dans ce sens-là. Alors on peut commencer tôt, puisqu'on peut commencer à l'âge de 14 ans,
oui,
à voler. On peut être lâché tout seul à 15 ans, voilà.
Ah.
Et on peut être breveté à 16 ans. Voilà. Et on
D'accord.
a eu plusieurs jeunes pilotes qui, le jour de leur anniversaire, ont passé leur brevet avec succès. Donc pour les jeunes, c'est une activité qui est intéressante parce que ça les responsabilise.
D'une part, oui.
Beaucoup plus que de jouer aux boules. Hein. J'ai rien contre les boules, mais c'est sûr que là, d'être tout seul, sa vie en dépend. Hein. Donc ça les responsabilise beaucoup. Et donc, je crois que ça leur donne une maturation
oui.
supplémentaire. Personnellement, je crois aussi que ça a beaucoup d'intérêt, et c'est dans le sens de cette maturité aussi, vis-à-vis de la conduite automobile. Je veux dire, par exemple, moi, je suis certain que, bon, moi, ça fait 27 ans que je vole, mais à partir du moment où j'ai fait du planeur, j'ai plus conduit de façon...
Irresponsable.
Pas irresponsable, mais plus de la même façon. C'est-à-dire que on anticipe beaucoup plus, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'en planeur, il faut toujours anticiper ce qui va se passer, quoi. Et si bien que ça a déteint sur ma conduite automobile, quoi. Voilà. Et je crois que pour les jeunes, c'est bon de savoir qu'il peut y avoir ça qui peut se passer après, il peut y avoir je ne sais quoi, etc.
Oui.
Donc ça, je crois que c'est sûrement très profitable de ce point de vue-là, même si ça paraît peu palpable, quoi, en vérité. Mais je suis sûr que oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, je ne sais pas.
Combien avez-vous d'adhérents, par exemple ?
Alors, on a une soixantaine d'adhérents.
Mm-hmm.
Je dois dire aussi que nous avons un contrat avec l'ENAC, qui est l'École nationale d'aviation civile à Toulouse. Et donc, leurs étudiants viennent voler en planeur chez nous.
D'accord. Hein,
ce qui peut être intéressant dans leur métier. Alors, bon, l'ENAC forme simplement dans certains cas des ingénieurs,
mm-hmm.
Ou alors des contrôleurs aériens, mais aussi des pilotes de ligne.
Hein.
Voilà. Et donc, c'est sûr que c'est très important, pour un pilote de ligne, je crois que c'est très important de savoir voler en planeur. Et d'ailleurs,
oui, c'est pour appréhender...
C'est-à-dire que quand vous êtes en... C'est ça la grande différence entre un avion à moteur et un planeur. C'est-à-dire quand vous êtes sur un avion à moteur... moteur, il marche,
tourne,
et puis ça avance. Quoi. Hein, vous allez, en gros, vous pouvez aller dormir, ça avancera. Hein. Tandis qu'en planeur, vous remettez en cause continuellement votre vol. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais en planeur. Moi, j'ai fait des vols de 7-8 heures, je me suis jamais ennuyé. Jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il faut observer tout le temps ce qui se passe, les nuages, les oiseaux. Les oiseaux sont nos amis, parce que quand on les voit qui tournent comme ça, ils montent, ils ne s'amusent pas, ils montent dans les courants d'air chaud, donc on va avec eux et on monte avec eux. Ils nous indiquent là où ça monte, parce que les oiseaux sont très, très futés de ce point de vue-là. Donc en planeur, on remet en cause continuellement notre vol, ça oblige à être attentif, et on ne peut pas compter sur le moteur, puisqu'il n'y en a pas. Donc il faut compter sur sa responsabilité à soi, sa technique de vol, et ça, ça peut être très important pour des pilotes de ligne. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez d'un, de cet épisode de l'Airbus qui a atterri à New York sur l'Hudson.
Oui.
C'était un pilote de planeur. D'accord. Et moi, personnellement, quand je l'ai vu, je dis, ce type, ça doit être un pilote de planeur. Quand je l'ai vu, la façon dont il a atterri, j'ai dit, ça doit être un pilote de planeur, ce qui était le cas. Et quand on a vu le calme, en plus, de cet homme, moi, j'ai écouté ça sur Internet, puisque les enregistrements ont été publiés. C'était tout à fait étonnant. Ce type avait un calme stupéfiant. Et quand il dit à la tour de contrôle, j'ai un des oiseaux qui sont entrés dans un moteur, il ne marche plus. Ah, le deuxième moteur non plus. Le type à la tour était scié, quoi. Pas un mot, quoi. Pas un mot. Le type ne savait plus quoi dire, quoi. Puis au bout d'un moment, il dit, bah, écoutez, vous pouvez atterrir sur tel aéroport un peu plus loin. Et aussitôt, le pilote lui répond, non, je ne l'atteindrai pas. Et ça, c'est dans la culture d'un pilote de planeur, de savoir s'il peut atteindre, par exemple, un tel aérodrome, s'il a la capacité, l'altitude, etc., si les conditions permettent de... Oui. Ça, c'est un mécanisme qu'on a continuellement dans la tête. Hein. Et donc, tout de suite, il a dit, non, je ne l'atteindrai pas. Type à la tour était scié, quoi, complètement scié. Et il dit, voilà, et aussitôt il a dit, je vais atterrir dans l'Hudson. Le type re-scié, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Et ça, c'est typique d'une. Ce sont des attitudes typiques de vélivol. Quand on vole, on remet en question tout le temps notre vol. Et bon, l'idée, quand on part d'Auch, bon, parce que c'est de Auch qu'il s'agit, ben, notre but, c'est de nous promener et de revenir à Auch.
Oui.
Ce qui est plus simple, quand même. Hein, bon. Mais parfois, vous ne pouvez pas.
Et oui, comment ça ?
Donc, vous pouvez partir, vous dites, je ne sais pas, je pars pour Cahors, par exemple, et puis en cours de route, ou pour revenir, les conditions atmosphériques se sont dégradées, et vous savez que vous ne reviendrez pas.
Et comment ça se passe ?
Alors, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous avez été assez futé pour vous rapprocher d'un autre aérodrome, soit par exemple l'Agen, ou Castelnaudary, par exemple, Moissac. Et à ce moment-là, ben, vous atterrissez sur l'aérodrome, et puis il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, notre avion remorqueur vient le chercher, puis nous ramène en nous tirant avec un câble. Voilà, donc ça, c'est le cas simple. L'autre cas, c'est que malheureusement, les conditions ont été ce qu'elles ont été. Ça ne marche plus, vous n'avez plus de courant ascendant, voilà, c'est comme ça, vous avez fait ce que vous pouviez. Et la seule solution qui reste, c'est d'atterrir dans un champ. Voilà.
Oui.
Donc ça fait partie de notre entraînement aussi, et on sait que, voilà, alors si bien qu'il faut toujours anticiper, je veux dire, vous ne prenez pas la décision à la fin de dire, ah ben, où il est le champ, où est-ce que je vais atterrir, quoi. Ça jamais, quoi. Hein, et... Donc, tout de suite, vous savez qu'à telle altitude, pour prendre mon exemple, mais qui n'est pas... je ne suis pas un étalon planeur, hein, mais enfin, moi je sais que quand j'arrive à 800 mètres d'altitude, j'ai déjà regardé en me disant où je pourrais atterrir si.
Oui.
Voilà. Puis après, je vais essayer de remonter quand même, hein, bien entendu. Mais si je ne remonte pas, eh bien, j'ai déjà un champ à peu près dans le nez, en disant, celui-là a l'air bien, parce qu'il n'y a pas d'arbres, parce qu'il n'y a pas de fil de fer, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de câble électrique, il n'y a pas de talus, il n'y a pas de pierre, enfin d'obstacles, oui. Il n'est pas trop en pente, il n'est pas en dévers, c'est pas un champ de maïs, parce que ça sera embêtant, etc. Donc, on sait déjà ce qu'on va faire. Hein. Voilà. En ce moment, c'est une très bonne période, par exemple, moi j'ai atterri dans un champ la semaine dernière, c'est un champ de blé coupé. C'est absolument le rêve, quoi. Là, c'est très bien, c'est presque meilleur qu'un champ d'aviation. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Quand on atterrit comme ça, il faut appeler les amis qui viennent avec une remorque. On démonte les ailes du planeur, on l'entre tout ça dans la remorque, et puis après, on revient à la maison. Alors, c'est moins confortable, c'est vrai, que de se faire amener en avion, quoi, bien sûr. Quoi, voilà. Alors oui, j'oublie. Quand on décolle, ouais, on décolle avec un. Donc on a un avion remorqueur, un avion puissant, hein, qui fait chez nous 180 chevaux, avec un câble de 60 mètres, qui est accroché à un crochet au planeur, qui est accroché à un crochet au remorqueur, et puis on va décoller. Donc ce qui décolle d'abord, c'est le planeur. Le planeur décolle d'abord, alors que l'avion n'a pas encore décollé. parce qu'il est plus fin, il a des caractéristiques de vol, le planeur beaucoup plus
fin. Aérodynamique.
Voilà, un aérodynamique beaucoup plus sophistiqué. Puis après, l'avion décolle, et puis donc on monte tous les deux comme ça, jusqu'à une altitude de 500 mètres.
Oui.
Et à 500 mètres, on tire sur une manette.
Et c'est vous qui lâchez.
Et c'est nous qui lâchez. L'avion part avec son câble, et nous, après, on se débrouille pour monter. Quoi. Voilà.
Quel instrument y a-t-il à l'intérieur du planeur ?
Alors, on a. D'abord, il faut savoir qu'en planeur, en France, tout du moins, on marche avec le système métrique.
Oui.
Alors que dans l'avion de ligne, c'est des pieds, des pouces, etc. Ce qui est très compliqué, en définitive, faire toujours des opérations insensées. Nous, on marche avec le système métrique. Donc, tout est exprimé en mètres, kilomètres et mètres secondes. Alors, on a tout d'abord un compteur kilométrique hein, qui nous indique la vitesse à laquelle on vole.
Mm-hmm. Hein.
Deuxièmement, on a un appareil qui nous dit à quelle altitude on se trouve.
Oui. Hein.
Et puis, un troisième instrument, ce qu'on appelle le variomètre. Alors, un variomètre, c'est un petit appareil rond, et vous avez une aiguille qui est là, comme ça. Si l'aiguille monte, c'est que l'appareil monte. Si l'aiguille descend, c'est que l'appareil descend. Et avec des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si l'aiguille monte vers 2, ça veut dire que l'appareil monte à 2 mètres secondes. Si l'aiguille descend, c'est qu'on descend à 2, 3, 4 mètres secondes. Et c'est ce qui va nous servir à savoir si on est justement dans cette espèce de colonne d'air chaud qui monte ou non. Hein. Alors l'astuce, c'est de rester le plus longtemps possible, de tourner dans ces colonnes d'air chaud pour monter. Et au contraire, quand on se promène et puis qu'on voit qu'on arrive, que le variomètre descend, ben, ça veut dire qu'on est au contraire dans ce qu'on appelle nous une dégueulante, c'est-à-dire qu'on est dans une masse d'air qui au contraire descend. Et là, il faut s'en aller vite.
Oui.
Donc on va au contraire augmenter la vitesse. Alors c'est vrai qu'en augmentant la vitesse, on augmente, comme on dit, le taux de chute de l'appareil. Parce qu'un planeur, il avance grâce à son poids. Quoi. Donc c'est vrai que plus on va vite, plus l'appareil descend. Mais tout bien considéré, c'est beaucoup plus avantageux de perdre un peu plus d'altitude en allant très vite que de rester dans une zone qui descend.
Oui. Hein.
Faut vous imaginer que vous êtes sur la plage, et vous marchez tranquillement et vous arrivez à un endroit où il y a des sables mouvants.
Oui.
Ben, vous n'allez pas rester une heure dans les sables mouvants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite courir. C'est exactement ce que l'on fait en plein air. Donc on reste, on diminue la vitesse ou on tourne là où ça monte et on va plus vite là où ça descend. Bon, donc ça c'est les instruments de base. Et on a maintenant, on a ce qu'on appelle le fil de laine, c'est un petit peu technique. Si vous voulez d'autres choses, on a un site internet sur lequel c'est très très bien expliqué. Vous prenez Google, vous mettez planeur poche et vous nous avez en premier lieu.
D'accord.
C'est pas compliqué. Et on a maintenant les choses avec l'électronique sont devenues beaucoup plus sophistiquées. C'est-à-dire qu'on a des GPS.
Oui.
Et aussi avec qui nous donne plein de renseignements. C'est-à-dire d'abord, c'est une petite boîte. Ah ben c'est idiot, je l'ai dans la voiture. Tiens, j'aurais dû vous la demander. Un petit appareil qui est un peu plus grand que ça, quoi. Et sur laquelle il y a une carte, sur laquelle on voit notre planeur.
Mm-hmm.
Voilà, puis qui avance, qui tourne, etc. Donc ça permet de savoir exactement où on est, ce qui est très important. Et puis ça permet de voir aussi où sont les aérodromes.
Oui.
Et ça nous dit aussi, en même temps, ça nous dit, par exemple, en les indiquant, ça dépend des logiciels, mais vous avez des logiciels qui marquent en vert les aérodromes que vous pouvez atteindre en fonction des caractéristiques de votre planeur, en fonction du vent, en fonction de beaucoup de choses. Automatiquement,
ah,
il dit clac, clac, clac. Donc, c'est un élément de sécurité.
De sécurité,
d'abord.
Oui.
Et puis aussi qui alourdit pas notre travail, parce que ça permet de... Voilà, hein. Parce que jusqu'à ce que ces petits appareils soient inventés, on faisait tout de tête ou avec des abacs, des trucs qu'on pouvait manipuler, mais on pouvait dire par exemple si j'ai une finesse 30, j'estime que j'ai une finesse 30, vu le vent, vu mon appareil, ça veut dire que pour faire un kilomètre, je perds 33 mètres. Là, je sais que j'ai calculé à peu près que l'aérodrome se trouve à 20 km. Il me faudra 660 mètres pour y arriver. Je suis à 800 mètres. C'est un peu de juste, donc je ne vais sans doute pas y arriver. Donc au lieu, alors avant, on se livrait continuellement à ce genre de calcul, ce qui exigeait une charge de travail assez importante. de manipuler les cartes, etc. Bon, alors que maintenant, c'est fait automatiquement par tout ça. Et dans les champions, les championnats, notamment maintenant, il y a des appareils extrêmement sophistiqués et qui permettent donc d'affiner et qui vous disent, par exemple, cet appareil-là vous dit continuellement et en automatique tout le temps, tout de suite, il vaudrait mieux voler à 120 km/h. Tout de suite, il vaudrait mieux voler à 110 km/h ou à 90. Donc, vous allez adapter, vous pouvez adapter votre pilotage en fonction de ce que vous fournit ce petit appareil. Quoi.
Ah, c'est bien. Voilà. Ouais.
Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, vous en avez qui coûtent très cher. Hein. Vous avez des appareils qui coûtent 100 ou 150 euros, ça, c'est rien. Puis, vous avez des appareils beaucoup plus sophistiqués qui peuvent coûter 3000 euros rien que pour avoir ce petit truc électronique. Ça dépend des appareils.
Voilà. Oui, c'est comme tout. Il y a tout.
Voilà. Alors, le prix des planeurs, bah, c'est très, très variable. C'est comme le prix des voitures. Hein. Vous pouvez avoir des voitures d'occasion. Bah, vous pouvez avoir des planeurs d'occasion pour 2 à 5 000 euros. Bah, ça existe. Hein. Très bien. Et puis, vous pouvez avoir des appareils neufs qui peuvent coûter de 50 000 à 300 000 euros. Quoi. Voilà.
300 000 euros.
Voilà, si vous voulez... Alors les appareils les plus sophistiqués à l'heure actuelle, c'est d'abord ces appareils biplace qui ont des envergures très importantes, hein, qui ont à peu près 27 à 30 mètres d'envergure, qui ont une finesse, je vous dis, de 60 environ, et qui peuvent aussi avoir un moteur sur le
dos.
Donc vous avez à l'arrière, sur le fuselage à l'arrière, vous avez une trappe, hop, vous appuyez sur un bouton, la trappe s'ouvre. Puis il y a un mât qui se lève comme ça, avec au bout une hélice et un moteur, ça se met en route, on peut décoller tout seul. Et une fois qu'on arrive à l'altitude voulue, le moteur y rentre, la trappe se ferme, vous voyez plus rien et ça vole comme un planeur normal. Et si vous le bourrez d'électronique sophistiquée, etc., eh bien, vous pouvez attendre 250-300 000 euros. Quoi. Voilà. Donc là, c'est plus dans les moyens du centre Vélivol d'Auch, malheureusement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui attise votre curiosité?
Je ne sais pas, vous faites des concours?
Alors, on fait des... Alors, il y a des concours en planeur, effectivement. Il y a des championnats régionaux, des championnats nationaux, des championnats d'Europe, du monde. En général, ce sont des épreuves hein, où on dit aux planeurs, vous devez aller tel endroit, tel autre endroit et revenir.
Mmh.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, bah, il faut, c'est la course, quoi, en définitive. Il faut faire ça dans le moins de temps possible. Quoi. Enfin, il y a plusieurs épreuves, mais enfin, ça, c'est une des plus classiques. Donc, alors, le problème, c'est que tous les planeurs n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques.
Oui, c'est ce que vous dites.
Faire le circuit avec un planeur qui daterait des années 50 et en faire un datant de 2012 sophistiqué, le temps ne va pas être le même, quoi, c'est évident. Hein. Donc, les planeurs sont qualifiés d'un certain handicap.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on... le nombre, le temps, enfin, il y a des formules mathématiques, si vous voyez, qui font que, on va dire, que tel planeur, il a fait tant de points. Voilà. Puis que tel autre, qui est moins sophistiqué, s'il a fait le même temps, il aura plus de points. Mm-hmm. Parce qu'il avait ce handicap d'être moins sophistiqué. Voilà. Nous, on a fait un championnat, c'était l'année dernière, un championnat régional. Qui s'est pas eu très beau temps, mais enfin, on a quand même réussi à le faire comme il fallait. Quant aux performances, bah, c'est très très variable. Hein. Le record du monde de hauteur en planeur, c'est 15 000 mètres.
Oh.
À peu près. Voilà. Alors, ça s'est fait en Patagonie,
ouais.
En Amérique du Sud. C'est un vol différent de ce qui se passe ici. Hein. C'est ce qu'on appelle le vol d'onde. Alors, le vol d'onde, c'est... Vous imaginez que ma main est la montagne, qu'il y a un vent qui arrive là, et le vent va buter sur la montagne, et donc va monter. Et donc après, les molécules d'air redescendent, et ça fait plusieurs vagues, ça fait ce qu'on appelle des ondes. Hein, voilà.
Mais il était obligé d'avoir un masque à oxygène.
Ah ben oui, quand on va à de très hautes altitudes comme ça, on est obligé d'avoir l'oxygène. Donc si vous arrivez, donc l'onde va monter comme ça, donc l'astuce c'est de se mettre là où l'air monte.
Oui.
Et donc, vous avez deux façons de monter. soit vous suivez la montagne, je dirais, dans le sens de Londres, quoi. Hein. Mm-hmm. Ou alors, vous piquez tout droit. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter votre planeur. Mm-hmm. Vous l'arrêtez par rapport au sol, vous l'arrêtez. Si le vent est assez puissant, vous ne bougez pas et vous montez, en fait.
Oui, comme une cheminée, quoi.
Enfin, exactement, comme dans un ascenseur. Hein, voilà. Donc, je dirais qu'à Hoche, en plaine, on a des variomètres qui montent entre, je dirais, de 1 à 3, 4 mètres secondes, quoi, à peu près. Quand on a du 3 mètres secondes, c'est déjà très bien. Quoi. Ben, ici, on est très très content. Hein. Assez souvent, c'est plutôt 1, 2, hein, mais parfois 3, 4, parfois 5, enfin, c'est très très rare. Bon. En montagne, notamment dans les Pyrénées, vous pouvez avoir des variomètres beaucoup plus importants. Vous pouvez avoir les 7 mètres secondes. Voilà. En Patagonie, où j'ai eu la chance de pouvoir voler en Patagonie, vous pouvez avoir des ascendances de 10-15 mètres secondes. Quoi. Donc c'est tout à fait considérable. 10 mètres secondes, c'est 36 km heure. Donc 15 mètres secondes, c'est 44 km heure. Donc vous montez, donc... ce champion du 100 mètres là, qui fait le 100 mètres en 10 secondes, là, bon, bah, il court au maximum 36 km heure. Bah, vous pouvez avoir 10 mètres secondes, vous montez à 36 km heure.
Ça doit être très intéressant.
Donc ça va très très vite. Là, ça va très très vite. Alors sinon, du point de vue distance, alors, je ne me souviens plus exactement des distances qui sont faites, mais enfin on peut faire en France, il y a des gens qui font 1500 km. Donc, voilà. Un des vols assez spectaculaires qui avait été fait il y a quelques années, c'est des gens qui étaient partis de la région lyonnaise, qui étaient montés sur le massif central à peu près, qui étaient redescendus vers le sud, qui avaient traversé l'Espagne, puis qui étaient atterris au Maroc. Voilà. Enfin, ça, c'était un joli vol. C'est un vol peut-être de 10 heures. Hein. C'est un vol très prolongé. Quoi. Voilà. Donc ça a des performances très... très très importante, voilà. Et tout dernièrement d'ailleurs, tout du moins en France, l'armée est en train de zioter, mais ils ont testé même un drone,
oui.
Qui est en fait un planeur. Ils ont pris un planeur pour en faire un drone, alors ils l'ont bricolé, mais les caractéristiques, enfin, c'est un planeur qu'on peut acheter si on veut, hein, mais qu'ils ont eux adapté au rôle de drone, voilà. Donc ça a des caractéristiques de vol extrêmement importantes. Quand je vous parlais tout à l'heure des caractéristiques de cette fameuse finesse, hein, où mm-hmm. on a des finesses de 40, 60, voire 70, un Airbus, en gros, c'est une finesse de 20. C'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Quoi. Ça plane beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Voilà. Alors, la question qui nous est souvent posée, c'est de dire, mais combien ça coûte ?
Alors, je vais vous la poser. Combien ça coûte ?
Alors, combien ça coûte de voler en planeur ? Alors, d'abord, il faut apprendre. Bon, alors, ce qui est le plus intéressant, c'est d'apprendre quand on est jeune.
Oui.
Parce que d'abord, on apprend beaucoup plus vite.
Et mieux, oui.
C'est mieux. C'est comme l'informatique. Si vous mettez une personne de mon âge devant un ordinateur qui n'a jamais fait ça, il va y arriver, mais il va mettre du temps. Alors que le gamin de 10 ans, il va trouver tout de suite comment ça marche. Quoi. Donc... ça, c'est très important. Et j'ai coutume de dire 20 ans, 20 heures, 60 ans, 60 heures. Voilà, c'est un peu caricatural, mais ça montre ce que ça veut dire. Voilà. Et alors, donc, c'est mieux d'apprendre jeune, parce que c'est plus rapide. C'est mieux d'apprendre avant de 25 ans, parce qu'en dessous de 25 ans, on a des bourses
oui.
qui peuvent aller jusqu'à 460 euros. Quoi. Mm-hmm. À partir de, si vous êtes lâché, vous avez 230 euros. Si vous avez le brevet, on vous redonne 230 euros. Bien. Donc ça fait 460 euros. Ça, c'est à l'échelon national. Hein. Voilà. Donc ça va se déduire de la formation. Si on prend quelqu'un qui va faire, 20 heures d'apprentissage, 30 décollés, mm-hmm. 30 atterrissages, plus l'inscription au club, plus l'inscription à la Fédération française de vol à voile, ça va faire en gros 1500 euros.
Quoi. D'accord. Hein.
Moins les 460, ça va faire 1000 euros. Ouais. Alors, c'est un titre indicatif. Il y a des gens qui sont hyper doués, puis il y a des gens qui le sont beaucoup moins. C'est comme l'auto-école. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça tout de suite, et puis il y en a où c'est plus difficile. Voilà en gros comment ça se passe. Alors, une fois que vous savez que vous êtes lâché tout seul, que vous pouvez piloter tout seul, après, bien, vous volez tout seul. Enfin, quelqu'un... combien on fait en vol ici, quelqu'un qui vole par an pour 1500-2000 euros, c'est déjà une très bonne année quand même. gens qui dépensent plus, mais déjà, c'est déjà une très très bonne année. Hein. Pour vous donner un exemple, on a, bon, nous, on a, je ne vais pas m'étendre sur les modalités tarifaires, parce qu'il y a autant de clubs que de modalités tarifaires en France, mais nous, on a fait quelque chose qui dit, voilà, si vous donnez, je crois que c'est 1100 euros, vous volez autant que vous voulez.
D'accord.
Voilà.
C'est très bien.
Hein. Alors, pour la location du planeur.
Oui.
Après, il y a le remorqué qui coûte de l'argent et qui coûte, pour être monté à 500 mètres, ça coûte 27 euros. Alors, c'est sûr que si vous payez 27 euros puis que par malchance vous volez 5 minutes, c'est vrai que là, ça fait un vol très cher à la minute, quoi. Hein. Mais si vous montez à 500 mètres et que vous volez 7 heures, ben, ça fait vraiment quelque chose qui est pas, qui revient pas très très cher, quoi. Mais quelqu'un qui dépense 1500 à 2000 euros dans l'année, c'est déjà quelqu'un qui vole bien, voilà.
Oui, et puis bon, c'est vraiment un loisir, quoi. C'est...
Oui, non, mais beaucoup de gens, moi je prends parfois des... J'ai quelque chose, d'abord c'est très bon pour la santé, je dis, Jean, vous fumez ?
Non.
Non, mais Jean, vous fumez ? Oui, bah oui, je fume. Je dis, bon, bah, vous arrêtez de fumer, et vous volerez très, très, très bien pendant toute l'année, et vous en restera peut-être même encore d'argent. Voilà. Donc ça, c'est une comparaison, mais qui n'est pas inintéressante.
Ben oui, parce que c'est hors de prix, quoi, les cigarettes, voilà. Ils ne se rendent pas compte.
Hein. Voilà, bah, oui, ça fait, je crois, moi je fume pas, mais je crois que ça fait 7 euros par...
Ouais, un truc comme
7
ça.
7 euros par paquet. Si vous en fumez un paquet par jour, ça fait 200 euros dans le mois, ça fait 2400 euros dans l'année. Bah, 2400 euros, je peux vous dire que vraiment...
Vous
là,
en faites des
choses.
Ah
oui, là, vous restera même de l'argent. Non, mais c'est vrai, hein. En plus, ce sera très bon pour la santé, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors après, il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr que de jouer aux boules, c'est moins cher. Bien, c'est vrai. Mais bon, après, si vous faites du ski, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein, parce que bon, vous allez aller au ski, vous allez voyager en voiture, il faut y aller.
Et le remonter.
Si vous louez les skis, le remonter. Et puis, ah ben, tiens, on va manger au restaurant de piste. Et puis voilà. Ou si vous louez le chalet ou tout ça, vous savez, hein, ça va très très vite. Hein.
Oui.
Donc, et puis ça dure, allez, mettons 15 jours. Et là, vous pouvez voler toute l'année. Nous, on est ouvert toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On vole donc, tant que c'est possible de voler, voilà, tous les jours, sauf s'il pleut ou s'il neige, hein, c'est sûr, ou s'il y a des brouillards, mais sinon, on vole toute l'année. On fait aussi des baptêmes de l'air, hein, et ça, on en a pas mal de gens qui ont vu que, voilà, qui ont dit je voudrais faire un baptême de l'air, est-ce que c'est possible ? C'est possible ! Donc, on fait un vol à peu près d'une demi-heure.
Oui.
On reste aux alentours de l'aérodrome, hein, c'est un vol en toute sécurité. Là, on est sûr de revenir à l'aérodrome, il n'y a aucun problème. On fait un vol calme, hein, c'est pas du tout un vol pour rouler des mécaniques. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient contents. Et en général, ils le sont beaucoup. Et moi, je garde en souvenir une dame de Gimont, il y a 2 ans, parce qu'on fait chaque année, à l'initiative de la Fédération française de vol à voile, on fait ce qu'on appelle les journées féminines, un week-end, parce qu'on s'est aperçu, malheureusement, enfin, c'est aperçu, c'est, tout le monde le sait, mais que c'est un sport essentiellement masculin.
Mmh.
Pourquoi ? Je ne sais pas, ça ne réclame pas de force physique. Les femmes sont aussi intelligentes que nous, voire davantage. Elles ont parfois une sensation, un feeling très aiguisé. Et pourquoi il y a une femme pour 10 hommes, quoi. C'est tout à fait étonnant. Voilà. Donc, la Fédération française de vol à voile, depuis 2-3 ans, a initié un week-end de dire « Ce week-end-là, vous ne faites voler que des femmes. Voilà. » Donc, on a fait ça depuis 2-3 ans. C'est un gros succès. On voit beaucoup de dames arriver avec des objectifs extrêmement variables. Dans le 99 fois sur 100, bon, le but, c'était de recruter des membres.
Oui.
Je dois dire que malheureusement, on n'a pas vraiment recruté de femmes. Bon. Mais peu importe, les gens, en général, les gens et les dames, en l'occurrence, sont très contents. Moi, je me souviens que j'ai fait un baptême de l'air il y a 2 ans à une dame de Gimont, qui avait à peu près mon âge, voire un petit peu plus, et qui, bon, on finit le vol, ça s'était très bien passé, tout ça, on descend, je lui dis alors ça vous a plu ? Elle me dit ah, J'en ai rêvé toute ma vie. Ben là, j'avais passé une bonne journée. C'est très bien. Et en général, ça se passe comme ça. Les gens sont contents, sont stupéfaits de voir qu'on arrive à voler, qu'on arrive à monter, et tout ça. Les gens sont absolument stupéfaits, ne pensaient vraiment pas que c'était possible, quoi. Voilà. Donc, on est très contents de faire ce qu'on appelle ces vols d'initiation, c'est-à-dire ces baptêmes de l'air. Alors, combien ça coûte un baptême de l'air aussi? Parce que ça, c'est, on reçoit souvent des mails comme ça, combien ça coûte? Alors, chez nous, ça coûte 65 euros. Ce qui n'est pas très cher, parce que bien des endroits, c'est beaucoup plus cher. Ça peut coûter, en certains endroits, jusqu'à 90-95 euros. Nous, on est à Auch, 32 000. On n'est pas, voilà, on est un peu à la campagne, c'est 65 euros. Voilà. Et cela dit, on a une... Et c'est vrai que c'est à Auch, on a une chance quand même extraordinaire. C'est qu'on a un terrain magnifique, un terrain d'aviation que beaucoup de gens nous envient. C'est un très beau terrain, très grand, donc ce qui permet de... notamment pour les jeunes pilotes, les débutants, d'avoir une sécurité très importante. Il y a vraiment de l'espace qui est à côté de la ville. C'est extraordinaire, ça. Quand vous êtes dans la région parisienne, il faut peut-être faire une heure et demie de voiture pour y arriver, quoi. Donc nous, moi, je vois que je pars de chez moi. 10 minutes après, je suis au club. Et 10 minutes après encore, je suis assis dans mon planeur et on part, quoi.
Ouais.
C'est extraordinaire, quoi, d'avoir la possibilité de faire ça. Voilà. Alors, c'est un des problèmes des terrains d'aviation. C'est-à-dire que bon, les terrains d'aviation, maintenant, sont passés sous contrôle des collectivités locales.
Oui.
Et si bien qu'il y a des communes, hein, en France, qui ne se sont pas enquiquinées, qui ont dit quoi ? Des terrains de tant d'hectares, hein, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez hop ! On vend tout ça, on construit des bicoques, terminé. Voilà. Bon. On a la chance, nous, qu'à Auch, ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il y a une structure, une belle, très belle structure, et bon, à tort ou à raison, les responsables politiques, tout ça, ont décidé, au contraire, d'essayer de promouvoir l'aéronautique. Il y a une entreprise qui s'est installée, ils ont rallongé la piste et tout ça. Est-ce que ça va porter des fruits? Bon, ça, je sais pas, je crois que l'avenir le dira, mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est la préservation du site, et pour ça, pour nous, c'est très important, quoi, évidemment, parce que ça nous permet
de continuer
voilà. Et les planeurs, c'est sûrement la plus grosse activité actuelle de la Auch, en nombre d'atterrissages par an, c'est sûrement la plus grosse activité.
D'accord.
Parce qu'on a beaucoup de décollages quand même dans l'année. On fait à peu près 1000 à 1200 décollages par an et 1000 à 1500 heures, ça dépend des années, de vol par an, quoi, à peu près. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Vous avez quelque chose à rajouter ?
Les clubs qui disent le planeur, c'est comme Tintin et Milou, c'est de 7 à 77 ans. Alors 7 ans, c'est trop tôt. Hein ? Comme je vous l'ai dit, c'est 14 ans. Et l'âge limite, quel est l'âge limite des planeurs ? Eh bien ça, nous ne le savons pas. Parce qu'on a des pilotes qui sont très âgés. Et on a nos deux doyens. Il y en a un qui vient d'avoir 84 ans. Et l'autre qui a 88 ans, qui est là en ce moment, qui vole. Et qui vole remarquablement bien, tous les deux. Voilà, donc c'est tout à fait, ça, je ne sais pas si c'est le planeur qui conserve ou quoi, mais voilà, alors j'ai pas mal volé moi avec c'est un Anglais d'ailleurs qui est très très gentil, qui est dans le Gers depuis 17 ans je crois, et qui vole en planeur, un ancien de la RAF, voilà, et qui vole régulièrement en planeur, presque tous les jours pratiquement, donc il est très content, et c'est un monsieur qui vole très très bien. Et l'autre est un monsieur de 86 ans, moi je dis 88, non c'est 86, et qui lui, voilà, il vient, il n'est pas de la région, mais il vient quelques semaines par an voler ici, et il vole avec son épouse, qui est un petit peu plus vieux que lui, mais qui malheureusement a des problèmes oculaires, qui donc ne peut plus piloter, mais ils se baladent, voilà, ils font leur petit vol tranquillement, donc, et à eux deux, ils ont, à eux 2, ils ont plus de 170 ans. Donc voilà, mais ils sont très très bien, très vifs, et je crois que ça les entretient sûrement, et à nous, ça nous donne beaucoup d'espoir, quoi, en définitive. Voilà. Mais j'ajoute que tout ça est encadré, quoi. Je veux dire que chaque année, ça n'est pas à partir d'un certain âge, c'est chaque année, il y a une visite médicale, hein, obligatoire. Et puis aussi, il y a un test, hein, il y a un instructeur qui, chaque année, nous reprend, dit, voilà, on va voir comment tu fais, etc. Donc, oui. Dire, on n'est pas lâché comme ça, dans la nature, à faire ce que l'on veut, quand on veut, etc. C'est quand même une activité qui doit être encadrée pour la sécurité des gens, quoi. Ça, oui. C'est clair, quoi. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, surtout.
Absolument pas. Est-ce que vous auriez un site internet, hein?
Oui, on a un site internet qui est www.planeur.net.
Et un numéro de téléphone?
05 62 63 23 55. Sur ce site internet, il y a tout ce qui concerne les tarifs, tout ce qui concerne... Il y a une messagerie, oui. Laquelle on peut en mettre des messages. Et il y a aussi une explication sur comment voler en planeur, comment se former, etc. Il y a la météo, il y a plein de choses intéressantes à voir, et que c'est en français et en anglais.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
Voilà.